études sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus.
Bien-aimés en Christ, shalom à vous qui nous suivez ici à Lomé et un peu partout dans le monde. Études sur Cantique est une émission qui a pour objet de commenter les paroles d'un chant ou d'un cantique chrétien. Et pour ne pas déroger à cette règle, nous aurons, avec le concours de l'autre Laurent, à commenter ce jour la chanson qui est intitulée « Maître de l'univers », un chant qui nous est interprété par le groupe Cri de joie que je vous laisse à présent écouter.
M'appelle par mon nom.
D'écouter à l'instant Maître de l'univers, la chanson qui fera objet de commentaires et d'études dans le numéro, dans ce nouveau numéro d'études sur cantique. Maître de l'univers est constitué de deux couplets et d'un refrain, et je me permets de vous donner lecture des paroles de cette chanson. Le premier couplet est libellé comme suit. Maître de l'univers, mon créateur, quels mots peuvent exprimer ton amour, ta grandeur? Tu m'appelles par mon nom, tu me connais. Je suis pourtant si petite, mais tu m'as aimé. Le refrain. Qui suis-je pour te louer? Pour que tu m'aies donné la vie éternelle? Que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Le second couplet. Maître de l'univers, mon créateur, quand je vois ma misère, la crainte vient dans mon cœur. Mais tout au fond de moi, je sais que tu demeures. Du haut du trône, tu formes mon cœur. Du haut du trône, tu formes mon cœur. De ce jour, en pleine chanson, nous écoutons à fond sonore Maître de l'univers. Alors, l'autre Laurent, nous avons dans une émission précédente parlé de ce groupe. Nous n'allons pas revenir en long et en large sur sa biographie, mais en quelques mots, peux-tu nous dire quelque chose sur ce groupe, pour ceux-là qui n'avaient pas écouté l'émission à l'époque?
Ok, pardon. Le groupe Cri de joie est un groupe de gospel réunionnais sur l'île de La Réunion qui a été créé en 2013 et qui partage la paix, l'amour et la joie dans le Seigneur. Rappelons que les chants de ce groupe ne sont pas cantonnés à une culture unique, mais ces chants représentent un arc-en-ciel d'inspiration à la gloire de Dieu auprès d'un public multiculturel. Donc c'est dans cette façon-là que fonctionne le groupe. Les chansons sont le reflet de la multiculturalité de ceux qui suivent leurs prestations.
Très bien. Alors, l'autre Laurent, on va sans plus tarder aborder la première phase de cette chanson. Et j'aurais bien voulu qu'on réécoute cette partie de la chanson, le premier couplet. Et on va essayer de comprendre ce qui est dit par ces mots, par ces paroles, par ces vers que nous avons dans le premier couplet de la chanson, que je vous laisse dès à présent. Écoutez.
Maître de l'univers, mon créateur.
Laurent, je constate que dans cette première partie de la chanson, que chaque vers constitue un fait qu'elle a énuméré. C'est ce que j'ai constaté. Et je voudrais qu'on aille pas à pas pour comprendre ce qu'elle a dit. Elle dit, elle reconnaît, d'après le premier vers, la première phrase de la chanson, elle reconnaît que le maître de l'univers, qu'il est maître de l'univers et qu'il est aussi son créateur. Que faut-il en dire?
Alors là, avant de répondre à la question, je vais essayer d'apporter une définition à l'expression univers pour qu'on puisse être mieux situé.
D'accord.
C'est vrai que quand on parle de l'univers,
oui,
il faut le souligner.
Oui.
Dans l'état actuel des connaissances de la science, l'univers est un ensemble de groupes humains sur la Terre. Cela, on parle des citoyens de l'univers. Ça, c'est le premier aspect.
Okay.
Le deuxième aspect, et là, on est plein pied dans la science, l'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe, et qui est décrit à partir d'observations scientifiques et régie par des lois physiques. Et il ne faut pas confondre l'univers avec l'espace. L'espace est cette étendue qui nous sépare des étoiles et qui généralement sépare les étoiles les unes des autres. L'espace se situe du point de vue de nous autres habitants de la Terre au-delà de la partie de notre atmosphère terrestre. C'est ça l'espace. Maintenant, l'univers, c'est l'étendue illimitée.
D'accord. Oui.
C'est le domaine où l'homme, dans sa petitesse, a pu cerner un peu ce que cela représente. Alors, je reviens au test. Quand l'auteur dit « maître de l'univers », cette expression s'apparente à ce que Melchisédek a dit à Abraham quand il a rencontré, lorsqu'il a dit dans Genèse 14, le verset 19, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre.
»
D'accord? Donc l'expression s'apparente à cela. Alors, là, pour aller un peu plus loin par rapport à la question que tu as posée, quand l'auteur dit « maître de l'univers, mon créateur », ça veut dire que l'auteur se reconnaît comme étant une créature de Dieu. Et la paternité de la création est la singularité foncière de Dieu. Pourquoi? C'est en cela qu'il se distingue d'avec toute autre entité qui réclamerait être une divinité. Il est le créateur. Et tout le reste est création. Alors quand on comprend ça à partir de là, chacun reste dans les limites de ce qui relève de son être. Et dans Ésaïe chapitre 43, le verset 7, il est dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Donc Dieu, non seulement est le créateur du ciel et de la terre, mais il est également le créateur de l'homme.
Ok.
Et spécifiquement, la Bible dit, il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. C'est nous seuls qu'il a créés de cette manière. Il n'a pas créé les anges de cette manière. D'accord? Dans un autre texte, dans Malachie, les enfants d'Israël, à un moment donné, se sont aussi posés ces mêmes questions. Malachie chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Tu vois? Ces gens reconnaissent être des créatures de Dieu. Maintenant, quand on prend Dieu, la personne de Dieu, quand on veut regarder l'univers, la création par rapport à Dieu, la Bible est là pour nous donner une description assez claire. Dans Daniel chapitre 4, le verset 35, là, dans ce passage, il est dit ceci, « Tous les habitants de la terre sont à ses yeux, ne sont à ses yeux que néants. Il, c'est-à-dire Dieu, il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. » Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? C'est ça Dieu. Avec les armées des cieux, avec les anges, Dieu décide de ce qu'il veut et aucun d'entre eux ne peut remettre en cause la parole de Dieu, les décisions de Dieu, les faits de Dieu. Et les habitants de la terre, même chose. Il dit que pour nous là, quand on prend les habitants de la terre, nous ne sommes que néants à ses yeux. Alors maintenant, la question est, mais comment ce Dieu-là, infiniment grand, qui en regardant la terre, c'est un petit point devant lui. Pour votre gouverne, les scientifiques ont lâché dans l'atmosphère de leurs appareils d'exploration, et à un moment donné, l'appareil a voulu regarder la terre depuis une position éloignée, hein, au niveau des planètes. Si vous avez de quoi écrire un stylo, prenez votre stylo, mettez le stylo sur la feuille, et le petit point que le stylo va laisser sur la feuille, c'est quelque chose comme cela. Notre terre, là, avec tous les habitants, là. Quand la machine a vu, c'est juste un point. Et c'est le cas après avoir zoomé, jusqu'à ce que, là, maintenant, apparaît la planète bleue. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce que Daniel, dans le texte de Daniel, il nous l'a dit. Alors, pour que l'auteur se reconnaisse une créature de Dieu, mais c'est une œuvre que Dieu accomplit dans le cœur de la créature. Parce qu'il y a des gens qui vivent comme si ils ne doivent leur existence à personne. Comme ici, ils sont apparus sur la terre, ex nihilo, et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent décider du sort des autres, et que rien ne les ébranle. Non. Qui que nous soyons, nous sommes les créatures de Dieu. Le souffle qui nous anime là, quand il enlève, vous ne pouvez pas remettre ça à sa place. Donc, là, ça c'est déjà un très bon pas pour un bon point pour l'auteur, lorsqu'il reconnaît en Dieu son créateur.
Très bien. Un autre fait que je note dans cette partie de la chanson, est qu'elle manque de vocabulaire. de vocabulaire pour exprimer l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a à son égard. Et l'amour de Dieu à son égard et sa, la grandeur de Dieu. Elle dit, quels mots peuvent exprimer ton amour, ta grandeur. Et ça nous arrive, souvent nous manquons de mots et nous, la, nous mettons tout ce que nous voulons dire là, dans juste... merci Seigneur. Oui, ça, ça nous arrive. Et je constate qu'elle vit, la même expérience.
Oui, oui, mais quand, d'un côté, tu vois la grandeur de Dieu.
Oui.
D'accord?
Oui.
Et tu vois sa majesté. Qui il est. Et tu te vois, toi, traité avec une telle personne. D'accord? Dans Job 36, le verset 26, il a dit ceci. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. C'est un Dieu infiniment grand, impossible pour un être humain de le connaître. Et l'expression de l'amour de Dieu pour nous, c'est le sacrifice de Christ à la croix. C'est en cela qu'il a prouvé qu'il nous aime. D'accord? Jésus s'est sacrifié pour des gens qui ne le méritent pas. Et quand Jésus mourait à la croix, toute la scène là qui s'est produite à la croix, en réalité, peuvent se résumer en ceci. En mourant sur la croix, Jésus est en train de te dire, je t'aime.
C'est l'expression de son amour.
Je t'aime. Et il a soupiré. Et puis c'est fini.
Okay.
D'accord?
Oui.
Donc, pour l'auteur, difficile de pouvoir exprimer notre appréciation à l'endroit de Dieu. Tu sais, quand ceci arrive en temps réel, quand dans l'adoration, tu prends conscience de la magnitude de Dieu, de la grandeur de Dieu, et de ta position infinitésimale vis-à-vis de lui, tu vas fondre en larmes. C'est en ce moment qu'on pleure. Et ces pleurs-là ne sont pas l'expression de la tristesse, non. C'est parce que tu ne sais plus quoi dire. Je vous explique un peu. Lorsqu'un enfant vient au monde, comme il n'a pas encore le vocabulaire approprié pour exprimer ses émotions, il fait quoi?
Il pleure.
L'enfant pleure. L'enfant crie. Et lorsque nous aussi, face à la grandeur de Dieu, son amour exprimé à notre endroit, de ce qui nous est sauvé, nous ne pouvons que pleurer. Quand les pleurs, quand ces larmes commencent par sortir, certains pensent que tu es très émotif. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui sont comme du marbre, ils sont juste là comme ça. Alors, donc, ici, l'auteur a raison de se dire que les mots lui manquent pour exprimer l'amour que Dieu a manifesté à son égard.
Oui. L'autre, Laurent, je vous laisse comprendre. Est-ce que dans cette posture-là, posture de manque de mots, est-ce que Dieu nous comprend réellement?
Bien sûr.
Il nous comprend le simple fait que je lui
Oui, parce que dise, notre être n'est pas que corps.
Ok.
Il y a des soupirs qui viennent de l'intérieur de nous que les mots ne sauraient traduire, mais que Dieu comprend.
Mais tu sais qu'il y a des gens qui se morfondent en disant que je n'ai pas les mots appropriés pour vraiment dire à Dieu ce que je ressens.
Mais il comprend. Il comprend. Mais Dieu comprend. Même les larmes.
Ah oui.
Même les larmes.
Les larmes qui coulent.
Oui, oui, oui. Il y a des moments où tu ne dis rien. C'est juste des larmes qui coulent.
Quelqu'un a dit que
il comprend.
Quelqu'un a dit que les larmes sont des expressions.
Bien sûr. Bien sûr.
Ok.
Quand le cœur est brisé. Oui. Quand on parle de cœur brisé, je ne parle pas du cœur là, physiologique, là, logé sous la cage thoracique. Je ne parle pas de ça.
Oui.
L'intérieur, l'homme intérieur là, quand il est brisé, en ce moment, les mots qui sortent, qui finissent par sortir, sont plus empreintes de sincérité que ce que nous disons de façon spontanée.
Machinale.
D'accord? Donc là, en ce moment, il sait ce que sa créature ressent.
Ah,
il ressent ça. Et aujourd'hui, c'est encore plus profond par ce que Jésus a fait.
Attends,
quand nous souffrons, Jésus, il sait ça par expérience, ce que c'est que d'être malheureux, d'avoir de la peine à pouvoir exprimer ce que nous ressentons. Et si vous êtes né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, en ce moment précis où vous cherchez les mots pour dire à Dieu en réalité ce que vous voulez dire, vous allez parler en langue. C'est en ce moment que l'Esprit maintenant prend le dessus et formule à sa manière les mots qu'il faut de façon appropriée pour dire à Dieu ce que nous ressentons. C'est à cela que l'apôtre Paul a fait allusion dans Romains chapitre 8.
Très bien. Et quand tu parlais là, ça m'a rappelé le psaume 51 où David dit quelque part que tu aimes un cœur contrit. Est-ce que ça va dans ce sens-là?
Oui, un cœur contrit, c'est... là, quand on est dans cet état de contrition, on est vrai.
Oui.
Quand on est contrit, on est vrai.
Oui.
Quand on se répand réellement, on est vrai. Oui. On ne cherche pas à impressionner Dieu par un vocabulaire approprié. Non. Même si la personne, en parlant à Dieu, fait des fautes grammaticales, Dieu, il connaît, il sait ce que tu veux dire. Certaines personnes, pour leur conversion, la phrase qu'il doit faire pour être converti ne contiendra peut-être pas sujet, verbe, complément dans l'ordre qu'il faut. Non. Pour certaines personnes, c'est juste pour dire « Dieu, sauve-moi ». Ça, là, déjà, la repentance est là. Parce que dans cette expression « Dieu, sauve-moi », il y a le langage de l'âme je ne sais pas comment vous dire. En ce moment, l'âme... Ce qui sort de l'intérieur, de la profondeur de notre être là, ça vient, la phrase que nous faisons peut ne pas être à 100% l'expression de ce que nous voudrions dire. Mais Dieu comprend.
Très bien. Merci. Le troisième fait que je constate est le suivant. La dame reconnaît que Dieu connaît son nom. Tu m'appelles par mon nom.
Oui.
Tu me connais.
Oui.
Tu m'appelles par mon nom.
Oui, ça c'est tout à fait normal.
Tu me connais.
Parce que Dieu est un Dieu personnel.
Ok.
Et tu vois, il est unique. C'est un Dieu unique. C'est là où beaucoup sont confus. Quand on parle du Père, quand on parle du Fils, quand on parle du Saint-Esprit, les gens sont confus. Ils pensent qu'il s'agit de toi, Dieu. D'accord? C'est un Dieu unique. Et il nous a créé chacun aussi unique. Et quand il traite avec nous, il ne traite pas avec nous individuellement par rapport à qui que ce soit. Non. Il traite avec nous individuellement en tant qu'entité unique dans l'histoire de la création. Ça veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, il n'y aura jamais dans l'histoire de la création quelqu'un comme toi. Non, chacun est unique. Et souvent, avant notre conversion, des choses nous sont arrivées. Avant même qu'on ne naisse, des choses sont arrivées à nos parents, à nos ancêtres, et ils nous ont légué certaines de ces choses-là. Qui nous affecte et qui altère notre personnalité et notre même vision du monde. Et à la conversion, chacun d'entre nous est comme une décombre humaine. Et quand l'Esprit de Dieu vient, il fait une œuvre de longue haleine. Dès l'instant où nous nous laissons à lui, il prend soin de colmater les brèches de nos vies, de réparer les fissures. C'est lui seul qui peut faire ça. Personne ne peut nous réformer, ne peut transformer notre être jusqu'à ce qu'à un moment donné, nous soyons prêts pour l'autre dimension, la dimension du royaume de Dieu. Donc là, c'est important de comprendre ces choses. Dieu est personnel. Et quand il te parle, tu sais que c'est à toi qu'il s'adresse. Et il y a des moments où il t'appelle par ton nom. Vous lisez dans la Bible, il a appelé Moïse par son nom, il a appelé Samuel par son nom, il a appelé David et tout le reste. Sous la nouvelle alliance... Il nous parle chacun par son nom. Quand il me parle, je sais. Donc, chaque enfant de Dieu sait. Quand tu marches avec Dieu, tu sais, quand il te parle là, il t'appelle parfois par ton nom. Parfois, s'il veut, il peut t'appeler fils de l'homme. Il peut choisir. Quand il commence par... Tu vois, quand il choisit de ne pas faire ce qui est habituel, il y a un message dans ça. Quand à un moment donné, il t'appelle directement par ton nom, et puis un jour maintenant, il veut te parler, il t'appelle fils de l'homme. Là, il ne faut pas juste te précipiter pour dire, hey, qu'est-ce que tu veux dire? Arrête-toi un instant pour comprendre pourquoi il t'appelle fils de l'homme. Le même Jésus qui a changé le nom de Simon en Képhas, à un moment donné, quand il veut attirer son attention, il ne l'appelle plus Képhas. Il retourne et l'appelle Simon, fils de Jonas. Et en ce moment, Pierre n'avait pas compris. Et quand il pose la question, m'aimes-tu? Dieu veut être aimé. D'accord?
Très bien.
Il a exprimé son amour en mourant pour nous. Qu'est-ce que je fais en retour? Est-ce que je l'aime? Si je l'aime, quelle est l'expression de mon amour? C'est l'adoration, c'est l'obéissance. L'obéissance à sa parole. Je ne cherche pas à argumenter avec lui. S'il me révèle sa parole, sa volonté dans sa parole, je me soumets à cette volonté-là. Donc, ici, quand l'auteur dit Dieu me connaît pas à mon nom, ça c'est tout à fait normal. C'est ce qu'il a dit à Moïse, Exode 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Tu vois un peu, Jean chapitre 10, verset 14. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, chacune d'entre elles. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
C'est vice versa.
Oui, bien sûr.
La connaissance est lui.
Lui, il a une connaissance parfaite de notre être. C'est ce qui lui permet de savoir, sans l'ombre d'un doute, qu'est-ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons, qu'est-ce qui nous pousse à dire ce que nous disons. Voilà pourquoi il est inutile de vouloir impressionner Dieu. Ça, c'est un. Deux, il est inutile de jouer à la comédie devant Dieu. Parce qu'il nous connaît. Tu ne peux pas faire des choses après, mais là, tu te présentes comme si tu n'avais... Non, non. On ne peut pas faire ce genre de choses-là.
Très bien. On est toujours dans le premier couplet. Et le dernier fait qui ressort de cette partie de la chanson est le suivant. Elle dit, malgré sa petitesse, la sœur constate que Dieu l'aime. Mais c'est formidable, cette histoire.
Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est vraiment formidable.
Donc, ça veut dire que... avec la petitesse vient les manquements.
Oui.
D'accord. La limitation.
Oui.
Parce que c'est lui-même qui a voulu nous créer de cette façon, pour que nous dépendions de lui.
Okay.
Il nous a créé, il a laissé en nous ce vide-là, que nous chercherons à combler. Et quand la conversion ne se produit pas dans une vie, les gens cherchent à combler ce vide par quoi? Par l'immoralité, d'autres par les plaisirs de la chair, et beaucoup d'autres. Mais à chaque fois, ils se rendent compte que le vide est toujours là. Mais quand il vient maintenant, qu'il crée en nous, tu vois, le Saint-Esprit joue le rôle de courtisan, si vous permettez l'expression. Il nous fait la cour. Le Saint-Esprit, il nous fait la cour. Il nous attire vers Jésus. Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus, ce travail, il a continué. À chaque fois, il crée en nous ce désir de vouloir le connaître davantage. Et c'est pour cela que l'auteur des psaumes dit, comme la biche soupire après le courant d'eau, mon âme soupire après toi, l'Éternel. Tu vois, si l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas dans votre vie, vous n'aurez aucun désir pour lui. Non, vous réveillez le matin, vous n'aurez aucune envie de lui parler. Vous ne sentrez même pas le besoin, là, sur le champ, de vous épandre devant lui, de laisser couler le flot depuis votre intérieur. Non. Mais quand on est réellement converti, c'est en ce moment que la prière n'est plus une sorte de formalisme où il faut commencer comme ça et finir comme ça. Non. Non. Là, c'est une relation qu'on est en train de développer avec lui. Lui nous connaît à 100%. Nous apprenons maintenant à le connaître. Et à chaque fois qu'il nous révèle un aspect de notre personne, nous pourrions le connaître comme cela. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, les patriarches, quelqu'un a connu Dieu sous un tel angle, il va dire, l'Éternel est ceci. Celui-ci l'a connu, l'Éternel est ceci. Maintenant, il est venu dans la personne de Jésus. Tu vois un peu? Donc, aujourd'hui, pour plusieurs personnes, quand elles lisent le Nouveau Testament, elles lisent la Bible, leur idée est rivée sur le Jésus qui a marché dans les plaines de la Palestine. C'est pour cela que certains n'arrivent pas à lui accorder le respect qu'il faut. Quand ils voient dans le livre de l'Apocalypse le même Jésus, là, maintenant, dans sa forme glorifiée, quand Jean l'a vu, Jean est tombé, là, vous allez voir qu'il n'est pas n'importe qui. On ne peut pas lui parler n'importe comment, on ne peut pas jouer avec lui, on ne peut pas se servir de son nom pour faire des choses de je ne sais pas comment dire, des choses inappropriées. Mais quand vous prenez conscience que l'Écriture dit Jésus-Christ est Seigneur, Hokurios, le Seigneur, et ça, c'est en référence à sa divinité. Quand vous prenez conscience de ça, et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est lui qui nous révèle qui Jésus est. Et ça impacte notre adoration.
Très bien. On va souffler en musique en réécoutant la chanson Maître de l'univers interprétée par le groupe Cri de joie. Et là, on va arriver au refrain pour comprendre également le message qui est véhiculé dans cette partie de la chanson. On y va avec le groupe Cri de joie. Dans le refrain, l'auteur pose à Dieu une question fondamentale, l'autre Laurent, la question est la suivante. Qui suis-je pour te louer? Mais ça, c'est formidable. Mmh. Que quelqu'un puisse poser à Dieu cette question, est-ce un aveu d'une créature indigne?
Oui, mais aussi longtemps que nous demeurons de ce côté-ci de la création,
oui,
nous serons toujours conscients de notre état d'indignité.
Okay.
Et nous aurons toujours besoin de la justice qui est en Jésus-Christ. Mmh. D'accord? Parce que la grandeur, la majesté, la sainteté et la gloire de Dieu ne peuvent s'accommoder avec des êtres si vils, si sales, si aveugles, si nus, si incompatibles avec la justice de Dieu.
Oui.
D'accord?
Oui.
Mais c'est la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu qui rend notre acceptation possible.
Mmh.
Nous sommes acceptés devant Dieu en raison de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde, en raison de ce que Christ a fait à la croix pour nous. D'accord? Et quand cette prise de conscience où nous voyons que nous sommes en réalité insignifiants aux yeux de Dieu, constamment enclins à errer et à pécher, à se salir, à se souiller, mais malgré cela, Dieu continue de nous aimer. Mais cet amour manifeste de Dieu n'est pas une licence pour que nous végétions dans le péché, dans les souillures, pour dire oui, mais bon, il m'aime toujours,
oui,
même si je plonge dans le péché, il m'aime. Non,
mais,
ce sera vraiment insensé que d'avoir une telle attitude.
D'accord. L'autre, Laurent, il y a un aspect qui me vient à l'esprit. Il y en a qui louent le Seigneur, qui sont soit dans la chorale ou dans le groupe musical, et qui, quand ils viennent pour louer le Seigneur, ils ne prennent pas du temps pour, se repentir, c'est-à-dire pour aller à Dieu, prier avant de rendre ce ministère. Mmh. Voilà, avant de rendre ce ministère. Ils viennent, comme ça est devenu une habitude, et ils se plongent dedans. Alors, la dame dit ici, qui suis-je pour te louer?
Oui, mais je comprends ce que tu es en train de dire. Même pour les serviteurs de Dieu, pour ceux qui prêchent,
oui,
par expérience, nous savons que tu ne peux pas juste te lever comme ça
exactement
et prêcher.
Oui.
Parce qu'il faut demander, qu'est-ce que je dois dire?
D'accord.
Et tu dois attendre pour qu'il te dise.
On ne peut pas...
En ce moment, tu es bloqué. C'est-à-dire que dans la prière, quand tu cherches à recevoir la parole, là, tu es bloqué, tu ne sais pas.
Oui.
Parce que ce n'est pas ton invention, le message de Dieu.
Exactement.
Donc tu pries, qu'est-ce que tu veux que, jusqu'à ce que d'un seul coup, c'est comme une fenêtre qu'on ouvre là, et tu sais exactement ce dont tu dois parler. Tu vois? Donc tu es dans un état de dépendance.
Ok. Donc ce n'est pas seulement le goût musical.
Non, ce n'est pas la chorale. Non.
C'est tout le monde qui est impliqué dans le ministère.
De dépendance. Même si tu conduis l'adoration, la louange, si tu ne prends pas sur toi de te préparer, tu peux dire, tu peux chanter par habitude, ça n'aura aucun impact. Ça ne permettra pas la gloire de venir. D'accord? Mais de la même façon. Si tu cherches, tu es conscient, Seigneur, c'est vrai, il y a tellement de cantiques qu'on peut chanter, mais qu'est-ce que tu veux qu'on te chante aujourd'hui? Seigneur, par quoi allons-nous commencer? Si tu te mets dans cette posture-là, ce peut ne pas être un cantique que tu vas chanter avec ferveur, mais le jour-là, tu vas voir la différence entre ce que tu fais par habitude et ce que Dieu te fait faire par sa grâce. Donc tu vois un peu, il y a aussi un aspect qui nous échappe, c'est que en dépit du fait que Dieu soit grand, élevé, majestueux, magnifique et redoutable, tu sais, Dieu nous respecte.
Ah bon?
Ah bien sûr.
Ah bon, c'est la première fois que j'entends ça.
Pourquoi? Parce qu'il nous a créés et nous a dotés de libre arbitre.
Ah d'accord.
Et il ne va pas forcer. D'accord, il va pas forcer notre libre arbitre. Non, il nous respecte. Il respecte nos décisions. Et lorsque les conséquences de nos décisions deviennent une réalité dans nos vies, quand nous courons à lui, il nous accepte, il nous corrige, il nous montre la voie à suivre. Dieu nous respecte. D'accord? Et que dans l'expression avoir la crainte de Dieu, quand on fouille un peu ce mot, il y a un élément aussi de révérence que nous devons à Dieu. C'est-à-dire un niveau élevé de respect que nous devons à Dieu. Et si nous le respectons, nous devons respecter sa parole. Si nous le respectons, nous devons respecter son nom. Tu vois, pour nous autres, des nations qui n'étions pas d'Israël, nous n'avons pas une notion réelle de qui Dieu est. Quand la Bible parle de Dieu grand et redoutable, quand Jésus nous dit, si tu veux prier, là, prends conscience de qui Dieu est, que ton nom soit sanctifié, que le nom de Dieu soit sanctifié, dans ma vie, au travers de ma vie, que ton règne vienne. Quand tu dis ça, pas juste une sorte de répétition, mais tu prends conscience que, donc le nom de Dieu, oui, justement. C'est pour cela qu'il dit, si quelqu'un prend son nom à la légère, il aura des problèmes avec Dieu. Mais aujourd'hui, là, on fait des choses... voilà, donc, Dieu nous respecte parce qu'il nous a dotés de libre arbitre. Nous sommes logés de son affection, de ses sollicitudes. Et ça, c'est au grand étonnement des anges. Et cela suscite la haine des démons. Pourquoi? Qui sont ces gens-là pour que Dieu prenne tellement soin d'eux? Ça étonne les anges. Et là, ceux qui ont quitté la lumière, qui sont devenus des êtres infects et tout ça, les démons, la haine maintenant en eux, c'est qu'ils savent qu'un jour, on quittera cette terre et on ira de l'autre côté. Là où ils ont quitté, ils ne pourront plus retourner. Donc, là, l'auteur comprend que par nous-mêmes, en réalité, on ne peut pas louer Dieu, en réalité. On louait avec quoi? Avec les mains sales. Les lèvres impures, voilà pourquoi on prend du temps pour demander à Dieu, purifie-moi, lave-moi. On règle cet aspect-là. On ne se précipite pas pour commencer par louer ou pas, pour commencer par prier. Non. Il y a un temps qu'on consacre à la Seigneur, me voici. Je peux pas moi-même dire que j'ai confessé, mais Seigneur, si par ton esprit tu mets le doigt sur ce qui ne te plaît pas dans ma vie, rends réel ce qui ne te plaît pas dans ma vie. Seigneur, ouvre mes yeux sur la réalité du péché. Comme tu vois le péché, montre-moi. Quand on aura fait des choses comme ça, que Dieu dans sa grâce nous donne de découvrir ça, on va devenir petit devant lui. D'accord? Dans Job, je vais lire deux passages là, Job chapitre 7, verset 17, il dit quoi? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui. Regarde tout à l'heure en parlant de la position infinitésimale même de notre terre là. vis-à-vis de la vastitude de la création. Dieu pouvait dire, écoutez, je vous ai créé, débrouillez-vous, il pouvait faire ça. Mais pourquoi il prend sur lui d'être au petit soin, de nous faire tout ça? Pourquoi il a permis que Jésus vienne mourir pour nous, alors qu'en réalité nous méritions à travers Adam ce qui nous arrive? D'accord? Et là, dans Psaume 8, le verset 4, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Voilà notre position. De peu inférieur à Dieu, créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as donné la domination sur les œuvres de tes mains. C'est ça l'autorité qu'on avait donnée à Adam. Et il a perdu. Et il nous a plongé dans ce dans quoi nous sommes actuellement. Donc, pour comprendre ça, nous avons besoin du Saint-Esprit pour effectivement louer Dieu. D'accord? À plusieurs reprises, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous avez mon nom sur vos lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Même chose aujourd'hui. Les gens savent qu'on va commencer une adoration, susciter l'émotion, faire ceci, mais le cœur là, le cœur avec lequel, on adore Dieu avec le cœur. Ça vient du cœur avant de venir sur les lèvres. Mais si c'est les lèvres et que le cœur est en train de faire autre chose, cette adoration est une abomination devant Dieu.
Maître de l'univers, mon Créateur, quel mot peut exprimer ton amour, ta grandeur? Tu m'appelles par mon nom, tu me connais, je suis pourtant si petit. Tu m'as aimé. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle, que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta de l'univers, mon Créateur, quand je vois ma misère, la crainte vient dans mon cœur, mais tout au fond,
nous abordons dès à présent le deuxième couplet ou la deuxième strophe. L'autre Laurent, à ce niveau, voilà une dame, quelqu'un qui reconnaît son état. Mm-hmm. Bon, est-ce vraiment difficile, est-ce une chose difficile que de reconnaître son état? C'est difficile. Elle le reconnaît, elle dit, quand je vois ma misère, est-ce difficile?
Oui, mais quand l'auteur parle ici de misère, il ne veut pas parler de misère d'un point de vue pécuniaire.
Oui.
Pas parce qu'elle n'a pas d'argent, non.
Exactement, oui.
Mais plutôt l'état de déchéance.
Oui.
Que nous avons tous en partage en tant que descendants d'Adam.
Ok.
D'accord? Et quelles qu'aient été les expériences que nous aurions faites avec Dieu, le progrès que nous aurions fait avec Dieu, à chaque fois que nous nous approchons de Dieu, nous prendrons conscience du fait que nous ne méritons rien du tout. Nous prendrons conscience du fait que c'est par grâce que Dieu nous accepte auprès de lui-même. Tu te souviens de l'histoire de cette dame-là dans Luc chapitre 7 à partir du verset 37, qui est venue, Jésus était à table et puis cette dame est venue. Et elle n'a rien dit. s'est approchée du Seigneur et elle était là à ses pieds et elle pleurait. Et Jésus comprenait ce qui lui arrivait. Ces pleurs-là, c'est l'expression de sa repentance. Pourquoi? Parce que lors de la première venue de Christ, il n'était pas venu pour condamner les pécheurs. Il n'était pas venu pour juger les pécheurs. Il est venu pour les rendre capables de ne plus plonger dans le mal. Quand cette dame est venue, elle voit l'expression de l'amour de Dieu dans la personne de Jésus. Et les pharisiens, et bon, comme à l'accoutumée, ce monsieur-là qui l'a invité se disait, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Tu vois l'expression là? C'est-à-dire, d'un côté, qui est la femme qui le touche?
Et l'espèce.
Et l'espèce.
C'est de l'injure. Hein.
L'espèce. D'accord?
Du mépris.
L'esprit de la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. En d'autres termes, moi, pharisien qui parle là, je suis un saint. Tu vois? Mais Jésus, il comprenait. Il pouvait lire le langage des larmes de cette femme. Et il lui a pardonné. Et c'est pour cela que la dame maintenant, pour apprécier ce que Dieu a fait, a brisé ce vase-là et l'a répandu sur le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'attendait pas à être acceptée. En dépit de l'espèce.
Quelle espèce elle est?
Bien sûr. Tu vois? C'est ça la vraie repentance. Quand nous prenons conscience que malgré tout ce que j'ai fait, Dieu m'a accepté. Mais il n'excuse pas mon péché. Il m'a accepté. Et il me lave, il me purifie. Tu vois? Donc, là, c'est ce qui a fait que quand on lit les textes, Jean chapitre 8, là, quand cette femme est venue, on a dit, voilà, on l'a surprise en flagrant délit, et tout ce que les gens ont dit sur elle, le Seigneur l'a regardé, lui a dit, où sont ceux qui te condamnaient? Où sont ceux qui voulaient te lapider? Oh, ils sont partis. Jésus dit, je ne te condamne pas non plus. D'accord? Mais il dit quoi? Va et ne pêche plus. Le fait que je ne te condamne pas n'est pas une excuse pour dire oui, bon, comme il ne condamne pas, je vais aller pêcher, il ne va pas me condamner, non. Va et ne pêche plus. Ça, c'est un. Vous comprenez? Là, ça aussi, c'est un test qui vous parle de la vie de sainteté qu'on doit mener après avoir connu Christ. Deuxième test. Jean chapitre 5. Jésus a guéri un homme et il le retrouve dans le temple et Jésus lui dit. Jean chapitre 5, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Dans ce cas d'espèce, Jésus est en train de le dire, ta maladie là, l'origine, c'était le péché. Ne pêche plus. Vis dans la pureté. D'accord? Et Jean chapitre 12, verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles, et ne les garde pas. Ça veut dire, vous entendez la parole, ça heurte votre orgueil, ça met en perspective, met en relief vos péchés, votre état de péché, et vous n'êtes pas d'accord, vous rejetez la parole. Jésus dit, ce n'est pas moi qui juge cette personne. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Là, dans ce cas, lors de sa première venue, il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver. Mais lors de son second avènement, il reviendra comme un juge implacable. D'accord? Il va juger ce monde et lorsqu'il va s'asseoir sur le grand trône blanc, le jour du jugement, il sera un juge implacable. Donc jusqu'à ce jour, il continue au travers du Saint-Esprit de faire preuve d'amour, de miséricorde, ne condamnant pas les gens, mais leur disant, revenez, repentez-vous, ainsi de suite. C'est ce qu'il fait jusqu'à maintenant. Le jour vient où tout ce langage-là va changer.
Très bien, nous allons vers la fin de cette émission. Je te pose la dernière question, l'autre moment. La sœur reconnaît que Jésus demeure en elle. Quelque part, elle dit, mais tout au fond de moi, je sais que tu demeures. Et tu nous as toujours rappelé ici, dans cette émission, que Jésus maintenant vit en nous. Elle reconnaît ça. Mais c'est formidable. Alors que beaucoup d'entre nous ne reconnaissons pas que Jésus vit en nous.
Oui, mais c'est, tu vois, à la nouvelle naissance, notre homme intérieur reprend vie. Avant, nous étions vivants physiquement, mais notre homme intérieur était mort. C'est ce que Adam nous a donné.
Oui.
Maintenant, à travers la repentance et la conversion, quand la nouvelle naissance, la naissance selon l'esprit se produit, notre esprit maintenant redevient vivant. Alors, quand notre esprit redevient vivant, les facultés de notre esprit commencent par fonctionner, y compris aussi de notre âme.
D'accord.
Là, il commence par agir, Dieu commence par agir sur notre intuition, notre conscience. Et à chaque fois maintenant, nous devons saisir l'occasion en exerçant notre volonté pour obéir à ce que Dieu nous aurait dit. Tu vas un peu. Donc, là, quand cela se passe, nous prenons conscience que nous ne sommes pas seuls, que quelqu'un vit à l'intérieur de nous. Et comment on s'y prend pour pouvoir entretenir cette relation? Par la parole, si vous êtes habitué à l'étude personnelle de la parole de Dieu. Dégagez un temps, ayez un moment seul à seul avec Dieu. Lisez la parole, posez-lui les questions. C'est comme ça qu'on apprend à l'écouter parler. À discerner ce qu'il veut.
D'accord.
Maintenant, à côté de ça, il y a aussi le fait que maintenant que vous aurez lu la parole, vous êtes parti, vous êtes en train de... Vous pouvez lui parler chaque fois à l'intérieur de vous. Ça, vous ne formulez pas des choses ouvertement, mais à l'intérieur, parlez-lui de presque tout et de rien. C'est vrai que pour certains, ça va prendre du temps, mais si vous persévérez, un jour, vous allez l'entendre clairement. Et vous, en ce moment, vous serez surpris. Oh, ah bon? Donc, tu as toujours été là. Il a toujours été là. Donc, c'est un exercice auquel, si vous vous livrez, vous serez gagnant à la fin, parce que vous apprendrez à savoir comment Dieu vous parle personnellement. Et cela est important pour vous et moi en tant qu'enfants de Dieu.
Merci, l'autre Laurent. Merci beaucoup. Merci également à vous qui nous avez suivis de l'autre côté du bout des ondes. Que Dieu vous bénisse. À l'écoute de cette émission Études sur Cantiques, voilà, on va s'arrêter là, bien aimé en Christ. Si le Seigneur tardait à revenir, on se reverra la semaine prochaine dans cette même émission pour l'étude d'une autre chanson. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.
ta splendeur.